France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui soit plus heureux que moi. Ce sont les mots que le pianiste Arthur Rubinstein confiait à Claude Samuel au cours d'un entretien qu'il avait réalisé au domicile parisien d'Arthur Rubinstein en décembre 1966. Dans la première partie de cet entretien que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui, Arthur Rubinstein nous dit son amour de la vie, tout en évoquant ses souvenirs de jeunesse en Europe et notamment à Paris, où il rencontra les compositeurs Maurice Ravel et Paul Dukas au tout début du XXe siècle.
Au micro Claude Samuel qui vous présente ce soir une heure chez Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein a bien voulu me recevoir il y a quelques jours dans son appartement parisien. Il a bien voulu répondre à mes questions, évoquer quelques souvenirs au gré de sa fantaisie. Écoutez-le.
Lorsqu'on assiste à l'un de vos concerts ou lorsqu'on parle quelques instants avec vous, on a envie de vous poser une question. Et cette question, peut-être vous aurez du mal à y répondre, mais c'est quand même la question que j'ai envie de vous poser. Je voudrais que vous nous livriez un secret, le secret de l'éternelle jeunesse, la vôtre.
C'est très difficile à répondre parce que ça m'est venu assez naturellement. Je dois dire que mes parents ont contribué puissamment parce que mon père était le patriarche ancien, vous savez, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui était très pédantique dans sa vie, qui m'a dit, il ne faut pas manger des fruits avant le café, pas de lait après de ce quoi. Maintenant, c'est une heure avant le dîner ou le déjeuner, il ne faut pas manger en chocolat. Vous savez, enfin, toutes ces choses pour la santé qui probablement sont excellentes. Vous savez, on ne sait pas. Ça a contribué énormément parce que je crois que nous devons beaucoup à nos parents et à nos ancêtres de notre santé, ça c'est clair. Ce sont les docteurs qui ont déclaré ça, ce n'est pas moi. Mais autrement, je suis né avec une espèce de vitalité vraiment qui est assez drôle. Enfin, tout le monde autour de moi est toujours fatigué sans que je me fatigue moi-même. Ça c'est vraiment très curieux. Mais je ne sais pas à quoi attribuer ça. Je n'ai jamais rien fait pour, j'ai fait beaucoup de choses contre. Beaucoup.
Et vous n'avez pas réussi à...
Écoutez, je prends beaucoup trop de café, je me couche très tard, je fais exactement la vie que j'ai faite il y a 50 ans, je vais à deux cinémas au lieu d'un, je vais au théâtre après encore souper. Tenez, hier je suis allé à Zurich pour des affaires, pour un contrat, pour une chose. Je suis allé le matin à 9h, après avoir dormi 5h, j'étais en première la veille, mauvaise première.
Ça arrive, ça arrive.
Et alors, je suis arrivé à Zurich, j'ai fait à pied une masse de choses, une masse de courses, j'ai acheté des choses, je ne sais pas quoi. Le déjeuner, un déjeuner éblouissant, dans un très bon restaurant, d'une énorme langouste d'un perdreau. Je suis rentré ici à 8h du soir, j'ai vite dîné, j'ai allé au cinéma, et à 1h du matin, j'ai pris une douzaine d'huîtres.
Très bien, un bon programme.
Et voilà.
Et vous pensez que c'est complètement nécessaire pour votre équilibre moral?
Voyez-vous, c'est très difficile à dire. J'adore la vie comme je crois peu de gens. Je dois vous dire une chose très grave, très très grave, mais de pleine confiance. Je n'ai jamais rencontré un être humain qui soit plus heureux que moi, vous savez. Je suis un homme heureux. Terriblement trop bien traité par la Providence. Vous savez, j'en ai honte et j'en suis terriblement reconnaissant à chaque instant de ma vie.
Vous avez pourtant passé des épreuves difficiles, comme tout le monde.
Écoutez, mais ce sont les charmes de la vie, ces choses difficiles. Un jeune homme doit avoir des moments difficiles parce que ça les, ce sont ces moments-là qui les rendent un homme, qui les rendent conscients de la vie. Évidemment, j'ai passé une nuit sans avoir mangé parce que l'hôtel m'a fermé les portes. Je n'avais pas le sou, j'ai dormi une nuit entière sur un banc de la place de l'Étoile.
C'est un souvenir parisien, ça.
Mais oui. Mais j'aimais ça. Parce que je me sentais victime, je me sentais, vous savez, maltraité. Et tout ça, c'est un bon sentiment. C'est très bon de se sentir maltraité par le monde. Ah, je veux le montrer un jour. Vous savez, tout cela. Mais... dès l'âge où ça compte, alors quand j'avais 30 ans, j'ai eu un succès immérité, absolument. J'étais mauvais pianiste. Et je n'étais pas mauvais pianiste par intention, ne pensez pas. Ni par spéciale paresse, comme on pense, comme je dirais dans mon livre de mes mémoires. C'était tout simplement parce que je ne donnais pas beaucoup d'importance, ni de... importance, peut-être pas le mot. Je n'avais pas d'admiration pour les pianistes, pour les virtuoses, vous comprenez, seulement pour les musiciens. Ah. Et j'en étais un. Donc, comme petit garçon, je ne voulais pas jouer mes gammes, je ne voulais pas jouer les fugues embêtantes que j'ai dû apprendre par cœur, mais je jouais tout Tristan par cœur, je jouais tout le maître chanteur par cœur. Les symphonies de Brahms par cœur, tous les concertis de violon, je pouvais accompagner par cœur, des quatuors difficiles par cœur. Et je les connaissais. Et ici, à Paris, à l'âge de 25 ans, j'ai gagné ma vie pendant une petite saison à coup de 500 francs pour jouer par cœur toute la Salomé de Richard Strauss.
C'était quand même une satisfaction d'avoir cette vaste culture musicale.
Oui, seulement ça ne donnait pas comme pianiste. Ça m'ouvrait toujours les portes des grands musiciens. Vous savez, je suis arrivé à Paris à l'âge de 18 ans. M. Astruc, le grand impresario, m'a tout de suite pris. J'étais son contrat numéro 2. Vous savez qui était Astruc?
Oui, bien sûr.
Oui, parce qu'il m'a fait jouer devant Ducasse, Paul Ducasse, Ravel, qui était alors un jeune homme sans grand succès. Qui se traînait comme ça, très, très amer. J'ai connu beaucoup alors dans ce temps-là. Jacques Thibault, violoniste, parce qu'il le connaissait beaucoup. Alors ces trois-là devaient juger si ça valait la peine de m'engager.
Mais vous aviez déjà fait un peu de carrière auparavant.
Petite carrière. Non. Je n'ai pas fait carrière. J'ai joué beaucoup en Allemagne parce que mon grand protecteur, au fond, second père, qui était Joachim, m'a fait jouer pour montrer mes progrès. Je n'ai jamais été enfant prodige.
Non.
Mais voyez-vous, ces trois messieurs qui devaient me juger. Quand j'ai vu Jacques Thibault qui m'a enthousiasmé dans un concert de Berlin, j'étais tellement ébloui que je lui ai joué vite toutes les choses du concerto de Mendelssohn et d'un autre de Bruch qui m'ont tellement plu. Alors ça, évidemment, ça les a un peu éblouis. Puis, Ducasse m'a parlé de je ne sais pas quoi, qu'il n'aimait pas Brahms. Alors j'ai dit, mais voyons, c'est pas possible. J'ai joué toute une première partie de la première symphonie. Mais je n'ai pas joué une traître note d'un répertoire de pianiste. Lui pensait que j'étais un jeune génie. Mais je ne l'étais pas du tout comme pianiste. J'étais un bon musicien.
Vous n'aviez pas essayé de faire de la composition ?
Si, mais j'ai trouvé très vite que je n'avais pas de talent. J'étais un imitateur. Vous savez, c'était toujours du Mozart, du Brahms, après du Chopin. Ça ne valait rien du tout.
Et vous n'avez pas été tenté par la suite ?
Kilomètres de la musique publiée qui traîne comme ça dans le magasin de musique. C'est tragique à les regarder. Vous le savez bien.
Vous n'avez pas été tenté par la suite, par la composition.
Heureusement, non. Quand j'avais 20 ans, j'ai cessé de composer. Évidemment, j'ai composé comme tous les jeunes gens. J'ai écrit, j'ai ébauché un concerto, j'ai écrit des chansons pour plaire à de jeunes femmes. J'ai écrit des morceaux de piano, de charme. Enfin, vous savez, j'ai fait tout ça.
Lorsque vous êtes arrivé à Paris, c'était une vie quand même tellement différente de la vie actuelle. Vous avez vécu cette période un peu folle.
Ah, mais je suis en train de la décrire. Vous savez que j'écris mes mémoires.
Oui.
Eh bien, ça me passionne en ce moment. J'ai décrit un peu cette vie.
C'était un vrai paradis ?
Ah non, pour un musicien, c'était l'enfer. Vous savez, on ignorait la musique dans ce temps-là.
Qui on ?
On, les Français.
Et maintenant, c'est différent, à votre avis ?
Ah, maintenant, non, c'est autre chose. Ils sont toujours mal organisés. Les Français ne veulent pas s'organiser musicalement comme les autres pays. Vous savez qu'il n'y a pas une société philharmonique des 20 villes, n'est-ce pas, qui se partage en artistes ou en orchestres, je ne sais pas quoi. Ce qu'il y a en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Amérique, enfin, partout presque, sauf en France. En France, c'est très risqué de donner un concert à Lyon ou à Bordeaux.
Pas pour vous.
Je ne sais pas, je n'oserais pas. Non, si on ne m'engage pas, je n'oserais pas. J'aurais peut-être une salle vide.
Incroyable.
Je dirais peut-être, oui, on l'a déjà entendu. Comme le monsieur qui a demandé à une dame, qu'est-ce que je dois donner à ma femme pour Noël ? Elle dit, mais peut-être une fourrure, ah, c'est trop cher. Elle dit, peut-être un diamant. Oh, non, je ne peux pas. Un livre ? Ah, ça, elle l'a déjà.
Vous pensez que l'époque des années folles, justement, était une période infernale pour les musiciens?
Alors, vous comprenez, sans radio, sans gramophone, sans télévision, les Français ont été gâtés toujours par les artistes de grandes sensations. C'était Sarasate, c'était Paderewski, c'était Caruso, voilà, Chaliapin. Alors ça donnait en plein, c'était des soirées, des galas, les femmes achetaient de nouvelles robes et tout cela. Moi, je me rappelle d'avoir donné 5 concerts en moins d'un mois. Et des amis assez bons à moi, enfin assez, pas intimes, enfin des gens qu'on voyait assez souvent, m'ont demandé dans la rue en me rencontrant, est-ce que vous n'allez pas jouer cette saison à Paris? Parce que c'était la salle des agriculteurs, ah, de oui. 300 ou 400 personnes, la salle est rare, 250 personnes. C'était le temps de Chopin. Chopin donnait un concert, il fallait souscrire des billets, il lisait la liste des invités, enfin c'était une chose privée. Par contre, on donnait beaucoup de concerts dans les salons, qu'on payait.
Et maintenant c'est fini pratiquement.
Oh, pas du tout, ça n'existe plus. Mais dans ces temps-là, j'ai joué le Marquis de Grammont, j'ai les Rothschild, j'ai les Castellane, vous savez, voilà. Ah, le petit Rubinstein, il fait quelque chose. Alors, c'était une soirée, grand dîner, puis des chaises, ou alors seulement pour le concert.
Vous aimiez cette vie mondaine?
Horrible, c'était horrible, vous savez, vraiment. Les gens demandaient des questions stupides. C'était une époque très drôle aussi musicalement. Regardez, aujourd'hui, vous autres critiques, vous êtes furieux quand les publics nous arrêtent pendant un mouvement avec des applaudissements. On dit que c'est du barbarisme et tout ça. Vous savez, autant, j'ai été en concert aux agriculteurs, à 2 pianos, Saint-Saëns et Planté. C'est quelque chose.
Mais non, oui.
Oui. Il s'est parlé en jouant. Oh, bravo, n'est-ce pas, disait Planté, après un joli trait de Saint-Saëns. Et les publics, après n'importe quelle petite mélodie bien chantée, au milieu du morceau, ravissant, oh, que c'est ravissant, bravo. Et ça enchantait les joueurs, ça les excitait. On applaudissait à tour de bras, après n'importe quoi. Tout de suite, après un petit mouvement, après un petit arrêt. Ça a excité.
Oui. On fait ça à l'opéra encore maintenant.
Oui, évidemment, voilà. Mais on met dans le concert.
Thank you.
Je jouais dans un concert devant un public en Espagne, un public qui m'aimait énormément. Vous savez, l'Espagne m'a ouvert vraiment les grandes portes de ma carrière.
Par hasard ?
Par hasard, parce que j'ai découvert pour eux Albéniz. Personne ne l'avait joué, c'est Liberia. Et quand j'ai commencé à jouer ça, c'était un éblouissement. Je suis devenu le héros de la nation, vous savez.
C'était à quelle époque ?
En 1916, pendant la Première Guerre. J'ai fait, vous savez, la Première Guerre, j'ai commencé par être interprète à Paris.
Interprète militaire ?
Interprète militaire, ça veut dire civil.
Oui, oui.
J'étais alors sujet russe,
oui.
Je suis polonais.
Oui.
C'était toute une complication. Et par grande, enfin, c'était Astruc qui m'a aidé à cela, qui m'a introduit. Il y avait l'attaché militaire russe qui m'a fait faire ça, enfin, puisque je connaissais cette langue déjà à cette époque-là. Non, cinq alors.
Cinq langues ?
Maintenant, huit.
Huit ?
Mal. J'ai déclaré justement l'autre jour que je donnerais bien volontiers sept langues pour parler une langue vraiment convenablement.
Je sais que vous parlez admirablement le français et l'anglais, vous parlez sûrement admirablement l'allemand et sûrement admirablement le polonais.
Mais écoutez, mais parler admirablement, ça veut dire quoi ? Commander un dîner, répondre à des questions, ça n'est pas connaître une langue à fond. Mais vous, regardez.
Ce sont mes meilleurs
amis, ce sont mes meilleurs amis. Il y a partout,
Mais ce sont des livres, je vois des milliers de livres. C'est en quelle langue ces livres ? Ce sont des livres
en tout
français.
Ça en huit langues.
En huit langues, dans toutes les langues.
Il y a aussi des Allemands, des Russes, des Polonais, il y a de tout. Il y a des Italiens, il y a des Espagnols.
En quelle langue écrivez-vous vos mémoires ?
En anglais, parce que j'ai un contrat en anglais. Alors ça doit être traduit.
Mais vous surveillerez vous-même les traductions, je pense.
Je surveillerai, oui. Il faudra que ça soit juste, n'est-ce pas ? Écoutez, je ne sais pas écrire, justement, c'est ça. À chaque second mot, je prends le dictionnaire pour voir si le mot que j'emploie veut dire ce que je pense que c'est.
Les livres ont toujours occupé une place importante dans votre vie.
Énorme. Voyez-vous, elle a occupé une place que personne n'a jamais pu occuper. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai au fond eu deux amis qui m'ont quitté trop vite. Tous les deux sont morts de cancer dans les deux, 30, l'un 33 et l'autre 37. C'est trop tôt pour moi. Depuis, j'ai des amis qu'on appelle chers amis, vous savez, bonne connaissance, on les aime bien, on aime dîner, déjeuner avec eux, mais au fond, ça n'est pas la même chose. Ces deux amis-là, alors, on échangeait les sons, l'argent, n'importe quoi. Comprenez, on était un. Ça, je n'ai pas eu depuis. Mais les livres, ce sont au fond les amis avec lesquels je discute, je parle, je reçois des réponses, je reçois des questions.
Mais vous avez une culture extrêmement éclectique, ou bien vous aimez quand même une certaine littérature ?
Non, je suis tout à fait éclectique. J'ai horreur de la pédanterie, vous savez, j'ai horreur des gens qui me disent « Ah, moi, c'est seulement les livres historiques qui m'intéressent, les biographies, je ne touche jamais un roman. » Vous savez, il y a tout ça, n'est-ce pas ? J'ai horreur de ça parce que c'est de la pose, au fond. Quand un roman est génial, c'est merveilleux de le lire. Quand un livre historique est assommant, il faut le jeter. Voilà. Il ne faut pas prendre parti comme ça, je trouve, non ?
Est-ce qu'il y a quelques grands livres qui vous ont spécialement marqué ?
Marqué, écoutez, je trouve tout d'un coup dans un volume de Balzac des choses étonnantes qui me servent pour demain matin. Voilà. D'autres jours, je les trouve vieillis, je les trouve inutiles à lire. Je commence à m'ennuyer profondément quand il décrit, enfin, je ne sais pas quoi, des dettes qu'il a eues, mais quoi. Ces personnages sont toujours remplis d'histoires d'argent. N'est-ce pas ? D'amour et d'argent. Alors là, les questions d'argent ne m'intéressent pas, parce que l'argent change toujours de personnalité. N'est-ce pas ? L'argent, comme la musique, a changé beaucoup de personnalité en France, je trouve.
Et en Amérique ?
En Amérique, pas tellement. L'Amérique, n'oubliez pas, c'est un enfant qui est en train de grandir. Il faut avoir beaucoup d'indulgence pour l'Amérique, et beaucoup, beaucoup d'amitié. On ne la comprend pas, l'Amérique. L'Amérique n'aime pas l'argent. L'Amérique aime le progrès, aime avancer, aime montrer qu'elle est bonne, qu'elle veut faire quelque chose de grand. Elle dépense son argent beaucoup plus vite que la vieille culture de France. En France, on aime l'argent, on aime regarder les billets de banque, on aime regarder l'or. En Amérique, on achète à crédit tout. On veut avoir une belle automobile, on veut avoir de jolis livres, jolies reliures, un joli tapis. On achète tout cela à crédit et on travaille comme des fous pour pouvoir payer chaque mois les contributions, enfin les différentes choses qu'il faut payer. Voyez-vous ? C'est tout à fait différent. Mais oui. Quand vous demanderez aux Américains de sauver quelqu'un, de sauver un petit enfant parce qu'il a besoin d'un certain sang, des gens vont risquer leur vie, vous savez, d'aller en aéroplane de n'importe quel temps, tout ça, de nuit, pour arriver. Non, on ne les connaît pas.
Vous aimez beaucoup l'Amérique ?
Non, je n'aime pas tellement l'Amérique parce que j'ai besoin de gens grandis. Je n'ai pas de patience avec leur jeunesse exagérée. Vous comprenez ? Soyons justes. Je m'impatiente très souvent de leur naïveté, de leur vraiment bêtise quelquefois. Elles parlent très souvent en garçons de 12 ans. Voilà. Au fond, ce sont encore des garçons de 12 ans. Leur mentalité n'est pas encore arrivée à la hauteur. Mais chez nous, à force d'être intelligent, on commet certaines fois des choses alors qu'ils m'horripilent.
Quand vous dites chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ?
Chez nous, en Europe.
Vous vous sentez plus
européen ?
Dans la vieille
culture.
Vous vous sentez
européen ? Je suis né en Europe, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis devenu américain parce que l'Amérique n'est pas l'Amérique. C'est au fond la nouvelle Europe. Qu'est-ce qui est ? L'Amérique, ce sont les peaux rouges. Ou peut-être, je ne sais pas, encore une autre race qui a été avant, je ne sais pas. Mais ce n'est pas nous. Nous, c'est quoi ? C'est 5 millions de Juifs, c'est 10 millions d'Allemands, c'est 12 millions d'Irlandais, c'est 15 millions de Grecs, c'est 3 millions de Tchèques, de Lituaniens, d'Ukrainiens, de diable c'est quoi ? Ça, c'est ça qui fait l'Amérique. Et tous tirent de leur côté un peu. Si vous parlez à un Lituanien, il est tout simplement que préoccupé de la vie de Lituanie, et enfin, qu'est-ce qu'on a fait à la Lituanie, quel tort, et qu'ils sont si gentils, qu'ils sont tellement braves, qu'ils sont, n'est-ce pas ? Chaque pays vous raconte la même chose, enfin, chaque descendant.
À quelle époque avez-vous commencé à jouer aux États-Unis ?
J'ai joué en 1906, ma première, il y a 60 ans, ma première tournée.
Et comment s'est passé
aussi
cette tournée ?
Aussi par hasard. Parce que j'ai connu, chez Paderewski, sans le savoir, un critique très important de l'Amérique et qui était frappé pas tellement par mon jeu mais par mon nom. Alors le nom Rubinstein était magique.
Bien sûr.
À cause d'Antoine.
Antoine, c'est ça.
Alors il pensait on peut tricher avec cela. Alors une grande maison de piano, pas Steinway, Knabe, c'est une maison de piano Knabe qui existe encore, m'a engagé pour 40 concerts.
À travers tous les États-Unis ?
Oui, oui.
Il y avait une organisation musicale à l'époque, au début de ce siècle ?
Mais oui. Organisation, non, pas d'organisation juste comme vous le pensez, non. C'était alors l'époque où on faisait beaucoup de pianos. On construisait énormément de pianos. Il y avait peut-être 20 fabricants de pianos importants. Chickering, Mason and Hamlin, Steinway, Knabe, Weber, vous avez entendu parler,
oui,
Baldwin, oui, voilà. Alors, pour faire la propagande de leur piano, ils ont engagé des pianistes pour faire des tournées sur leur piano.
C'est une opération publicitaire.
Absolument. Paderewski a fait sa carrière comme cela, avec Steinway.
Et alors, la première tournée aux États-Unis a été...
Alors, c'était ça. Je jouais encore innocemment. Vous savez, je suis sorti du conservatoire de Berlin sans avoir fini mes études. J'ai fait une petite révolte contre les pédants allemands. Je suis parti sans avoir fini. J'étais hors de tout, hors la loi, vous savez. Et on m'a engagé. J'avais naturellement un succès de jeunesse, d'éclat, de tempérament. Mais les critiques sérieux trouvaient que je n'étais pas du tout mûr.
Qu'est-ce que vous jouiez à l'époque ?
J'ai fait mon début à New York avec un concerto de Saint-Saëns que j'ai enlevé avec un brio formidable, en sol mineur. C'était un succès fou de ma petite jeunesse.
Vous ne rejouez plus beaucoup Saint-Saëns maintenant ?
Très rarement. Non, ce concerto, de temps en autre, si. J'ai fait même un disque que j'aime bien de ce concerto. Vous savez, Ravel m'a dit qu'il a appris toute son orchestration par ce concerto des sols mineurs de Saint-Saëns.
Vous pensez que Saint-Saëns est méconnu finalement? Parce qu'il y a quand même des préjugés un peu contre Saint-Saëns.
Écoutez, ce sont des choses formalistes. Regardez à l'amour qu'on avait, enfin, l'amour exagéré qu'on avait pour Mendelssohn dans son temps. On est considéré bien supérieur à Chopin, à Schumann, à presque tout le monde. C'était les descendants de Beethoven, Mendelssohn. Où est-il maintenant? À part du concerto de violon et deux ou trois symphonies.
Vous ne jouez pas les concertos pour piano de Mendelssohn?
Non. Non, c'est un
peu... On peut vivre sans.
On peut vivre sans cela.
Thank you.
C'était le deuxième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns qu'interprétait Arthur Rubinstein avec l'orchestre de Philadelphie sous la baguette d'Eugène Ormandy. Ainsi s'achève le premier volet de cet entretien avec Arthur Rubinstein que Claude Samuel avait enregistré en décembre 1966 et dont nous retrouverons la suite demain. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette archive sont à retrouver sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui était à la réalisation et aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.